Bonjour. Sur Fréquence 7, tous les premiers mercredis du mois, vous retrouvez à 12h30 puis à 17h30 la rubrique Clair d'étoiles de l'association Clair d'étoiles et Brain Jardin. Aujourd'hui, c'est Marilyn Bardou, qui présente la dernière rubrique de cette saison 2019-2020. Tout d'abord, bonjour Marilyn.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et tous.
Donc avant de partir très loin dans l'espace, je crois nous allons démarrer par les éphémérides. Que pourrons-nous voir dans le ciel durant les toutes prochaines semaines ?
Le mois de juin est la période du solstice d'été pour l'hémisphère nord. La durée du jour étant maximale, pour admirer le ciel nocturne, il faut attendre 22h30 et se lever avant 4h30, ou alors profiter des beaux moments de crépuscule ou de l'aube autour de ces horaires. Dans le ciel du soir, de ce début juin 2020, aucune planète n'est présente, mais elles seront presque toutes dans le ciel des aubes à la fin du mois. En effet, la très brillante planète Vénus qui ornait les soirées de début décembre 2019 à fin mai 2020 n'est plus visible. Le temps pour elle de passer entre le Soleil et la Terre et elle reviendra à l'aube après la mi-juin. Le 19, un très fin croissant de lune passant à proximité de Vénus formera un beau tableau matinal au-dessus de l'est-nord-est. Tableau qui se répétera le 17 juillet. Durant les aubes des 15 derniers jours de juin 2020, nous pourrons observer 4 des 5 planètes visibles à l'œil nu. Vénus, très brillante, sera assez bas sur l'est-nord-est. Mars, plus haut sur le sud-est, s'identifiera facilement avec son bel éclat orangé et sera souligné par un quartier de lune passant à proximité les 13 juin puis 12 juillet. Enfin, Jupiter, très lumineuse, et Saturne, plus discrète, se trouveront au-dessus du sud-ouest, proches l'une de l'autre. Le 6 juillet, la lune quasiment pleine passera juste sous ces deux géantes. A noter que le 19 juillet, une heure avant le lever du soleil, donc 5h15 chez nous, en prenant soin de choisir un site aux horizons très dégagés, on pourra voir toutes les planètes visibles à l'œil nu. La discrète Mercure aura en effet rejoint les 4 précédentes. Elle se trouvera au ras de l'horizon est-nord-est et un très fin croissant de lune sur sa gauche aidera à la repérer ce matin-là du 19 juillet. Il faudra patienter jusqu'à fin juillet début août pour retrouver les planètes Mars, Jupiter et Saturne dans le ciel de nos veillées estivales. Côté constellation, c'est la période où la belle figure de la Grande Ourse est très haut dans le ciel. Une fois identifiée sa forme de casserole, si l'on prolonge la courbure des étoiles formant son manche, on tombe sur l'une des plus brillantes étoiles du ciel d'été, Arcturus du Bouvier. En la comparant avec Vega de la Lyre, on vérifiera facilement la différence de couleur des étoiles, qui nous renseigne sur leur température de surface. Arcturus et Vega, toutes deux très lumineuses, se trouvent de part et d'autre du zénith, la première, jaune-orangée, à une température d'environ 4000 degrés de surface, alors qu'avec son éclat blanc, Vega doit frôler les 10 000 degrés. Vega est une étoile jeune, environ 3 fois plus grande que le Soleil, située à 25 années-lumière. Arcturus est une géante rouge étoile en fin de vie. D'un diamètre de 25 fois celui du Soleil, elle est située à près de 37 années-lumière.
Marilyn, pourrais-tu nous donner des explications sur ce qu'est l'année-lumière ?
L'année-lumière est une unité de mesure des distances en astronomie. Mais permettez-moi une approche historique de la mesure des distances en général avant d'aborder et peut-être mieux comprendre celle utilisée en astronomie. Sans remonter à l'Antiquité ni approfondir les tentatives d'uniformisation sous Charlemagne, je vais commencer au XVIIIe siècle. Parce que c'est de la Révolution française que date l'unité de mesure de base utilisée actuellement, le mètre. Et ses multiples et sous-multiples, du kilomètre au millimètre. Jusqu'alors, les mesures étaient d'une extrême diversité. Selon les provinces, villes ou villages, voire corporations ou objets mesurés, elles n'avaient pas la même appellation. Et même quand elles portaient un nom identique, leur valeur pouvait différer. Il fallait s'y retrouver entre les perches, pouces, palmes, lignes, coudées, brasses et autres empans ici, et les pieds, les pas et les toises ailleurs. Qui plus est, sans que tout ceci ait la même valeur.
Effectivement, le pas d'un être humain, qui peut varier fortement selon l'observateur, est l'exemple même d'un mauvais outil de mesure.
Tout à fait, c'est un mauvais étalon de mesure. Et lors de la Révolution, les cahiers de doléances de nombreuses villes demandaient que l'on établisse l'uniformité des poids et mesures, ce que les savants appuyaient de leurs vœux. La multiplicité de mesures était devenue très gênante, notamment dans les activités administratives, commerciales et scientifiques. L'avis de l'Académie des sciences fut suivi par l'Assemblée constituante pour prendre comme base du nouveau système, et je cite, « une unité de mesure naturelle, invariable et universelle, n'ayant rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'un peuple du globe. » Et c'est le méridien terrestre qui a été choisi. Restait à mesurer un arc de méridien terrestre pour préciser la référence décidée. Ce qui fut accompli par deux astronomes de 1792 à 1798. Le premier, Jean-Baptiste Joseph Delambre, prit les mesures jusqu'à Dunkerque. Le second, Pierre-François Méchain, jusqu'à Barcelone. Impossible de retracer ici leurs aventures et détailler les différents épisodes avant que le maître étalon soit fixé par la loi en 1799. En tout cas, c'est depuis lors que notre unité de base de mesure des distances est le 10 millionième de la longueur du quart du méridien terrestre, nommé mètre, en référence au mot grec « métron » signifiant « mesure ». Toutefois, face aux réticences, habitudes et petits pouvoirs locaux, ce n'est qu'à partir de 1840, après qu'il soit rendu légalement obligatoire, que le système métrique sera établi partout en France.
Et ensuite, partout dans le monde, à l'exception d'une quinzaine de pays où il reste facultatif, entre autres pour les anglo-saxons qui ont du mal à abandonner les pouces, pieds et miles.
En effet, ensuite, tout en gardant une valeur extrêmement proche de sa base révolutionnaire, la définition du mètre a évolué au fil des progrès scientifiques et techniques. En 1960, elle est fondée sur les radiations du krypton, l'un des gaz dits rares, comme entre autres l'hélium, le néon. Et depuis 1983, elle est basée sur la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une fraction précise de seconde. Et nous retrouvons bien là un étalon de mesure idéal, la vitesse de la lumière étant constante et indépendante de l'observateur. Et nous arrivons maintenant à la mesure des distances en astronomie. Sur Terre, le mètre est bien l'unité de base et à partir de 1000 mètres, nous parlons en kilomètres. Le fameux méridien terrestre mesure un peu plus de 20 000 km. Jusqu'à notre satellite, le kilomètre suffit encore. La distance Terre-Lune est en moyenne de 384 000 km. Mais cette unité de mesure devient peu commode pour exprimer des distances en milliards de mètres. Notre planète est située à près de 150 millions de kilomètres de son étoile. C'est cette distance moyenne, appelée demi-grand axe de son orbite, qui définit l'unité de mesure couramment utilisée dans le système solaire, l'unité astronomique, UA en abrégé. Une unité astronomique vaut exactement 149 597 870,691 km. Ainsi, en partant du Soleil, Mercure est à près de 0,39 unités astronomiques, Vénus à 0,72 UA.
Si j'ai bien suivi, la Terre est à 1 UA, puisque c'est sa distance au Soleil, de près de 150 millions de kilomètres qui définit l'unité astronomique.
Exactement. Et plus loin, Mars est à 1,53 UA du Soleil, et les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se trouvent respectivement à plus de 5 9, 19 et 30 UA. Ce qui représente quand même 4 500 millions de kilomètres de distance entre le Soleil et la dernière des planètes principales. Et plus loin encore, la planète naine Pluton est à 40 UA. On estime la limite du système solaire à environ 63 000 UA. C'est le début de l'espace interstellaire. Les unités astronomiques devenant à leur tour insuffisantes pour exprimer les distances entre les étoiles, on utilise alors l'année-lumière. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en un an.
Mais pour connaître donc la distance parcourue en un an, il faut savoir à quelle vitesse voyage la lumière.
Bien sûr, on connaît bien cette vitesse de la lumière. Et l'histoire de sa mesure du XVIIe siècle jusqu'aux précisions avec laser au XXe est elle aussi passionnante, mais exprimée en chiffres arrondis, la vitesse de la lumière dans le vide est de 300 000 km par seconde. À cette vitesse-là, en un an, la lumière parcourt plus de 9 460 milliards 730 millions de kilomètres, soit, en chiffres arrondis, près de 10 000 milliards de kilomètres. C'est l'année-lumière. La distance qui sépare le Soleil de sa voisine la plus proche, l'étoile Proxima du Centaure, est de 40 000 milliards de kilomètres, ce qui équivaut à 4,2 années-lumière.
Mais l'année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en un an, si cette étoile est à 4,2 années-lumière, sa lumière nous parvient donc après 4,2 ans de voyage. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était il y a 4,2 ans. Cela signifie que l'observation astronomique nous fait voyager dans le passé autant que dans l'espace.
Absolument. Deux personnes face à face se voient instantanément, car le temps de voyage de la lumière est infinitésimal. Mais plus ce que l'on observe est éloigné, moins on le voit en direct. Le différé est plus ou moins important selon la distance. Et à l'instar du mètre qui a des multiples et sous-multiples, autour de l'année-lumière, on utilise des secondes-lumière, des minutes, heures et jours-lumière. Par exemple, du Soleil à la Terre, on compte 8 minutes-lumière en moyenne. Neptune, avec ses 4 500 millions de kilomètres, équivalent à 30 unités astronomiques, est à 4 heures-lumière. Les confins du système solaire, estimés à 63 000 unités astronomiques, sont à 1 année-lumière. Le Soleil, avec 200 à 400 milliards d'autres étoiles, font partie d'un gigantesque ensemble appelé galaxie de la Voie lactée, dont le diamètre est d'environ 100 000 années-lumière. Et la Voie lactée fait à son tour partie d'un regroupement d'une cinquantaine d'autres galaxies que l'on nomme groupe local, dont la dimension est estimée à 10 millions d'années-lumière. Et plus vaste encore, on observe beaucoup d'ensembles avec des centaines ou milliers de membres, appelés amas de galaxies. Par exemple, l'amas de la Vierge, situé à 60 millions d'années-lumière.
C'est vertigineux. Même l'année-lumière devient dérisoire.
Oui. Alors, les astrophysiciens utilisent une autre unité de mesure, le parsec, contraction de parallaxe seconde, qui vaut 3,26 années-lumière. Mais il est maintenant temps pour nous de redescendre sur Terre et d'encourager tout le monde à admirer le ciel étoilé dans son immensité.
Merci Marilyn pour ce déconfinement extra-stellaire et puis à très bientôt sur Fréquence 7.
Au revoir.
Au revoir.